This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Chapitre 13 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. Le courant d'air frais que produisait le mouvement rapide du char fit bientôt revenir Tahoser à la vie. Pressée et comme écrasée contre la poitrine du pharaon par deux bras de granit, elle avait à peine la place d'un battement pour son cœur, et sur sa gorge pantelante s'imprimaient les durs colliers des mots. Les chevaux, auxquels le roi rendait les rênes en se penchant vers le bord du char, se précipitaient avec furie. Les roues tourbillonnaient, les plaques d'airain sonnaient, les essieux enflammés fumaient. Tahoser, effarée, voyait vaguement, comme à travers un rêve, s'envoler à droite et à gauche des formes confuses de constructions, de masses d'arbres, de palais, de temples, de pylônes, d'obélisques, de colosses rendus fantastiques et terribles par la nuit. Quelle pensée pouvait traverser son esprit pendant cette course effrénée? Elle n'avait pas plus d'idée que la colombe palpitante au cerf du faucon qui l'emporte dans son air. Une terreur muette la stupéfiait, glaçait son sang, suspendait ses facultés. Ses membres flottaient inertes, sa volonté était dénouée comme ses muscles, et, si les bras du pharaon ne l'eussent retenue, elle aurait glissé et se serait ployée au fond du char comme une étoffe qu'on abandonne. Deux fois elle crut sentir sur sa joue un souffle ardent et deux lèvres de flamme. Elle n'essaya pas de détourner la tête. L'épouvante, chez elle, avait tué la pudeur. À un heurt violent du char contre une pierre, un obscur instinct de conservation lui fit crisper les mains sur l'épaule du roi et se serrer contre lui. Puis elle s'abandonna de nouveau et pesa de tout son poids, bien léger, sur le cercle de chair qui la meurtrissait. L'attelage s'engagea dans un dromos de sphinx, au bout duquel s'élevait un gigantesque pylône couronné d'une corniche où le globe emblématique déployait son envergure. La nuit, déjà moins opaque, permit à la fille du prêtre de reconnaître le palais du roi. Alors le désespoir s'empara d'elle. Elle se débattit, elle essaya de se débarrasser de l'étreinte qui l'enlaçait, elle appuya ses mains frêles sur la dure poitrine du pharaon, roidissant les bras, se renversant sur le bord du char. Efforts inutiles, lutte insensée. Son ravisseur souriant la ramenait d'une pression irrésistible et lente contre son cœur, comme s'il eût voulu l'y incruster. Elle se mit à crier, un baiser lui ferma la bouche. Cependant les chevaux arrivèrent en trois ou quatre bonds devant le pylône, qu'ils traversèrent au galop, joyeux de rentrer à l'étable, et le char roula dans une immense cour. Les serviteurs accoururent et se jetèrent à la tête des chevaux, dont les mors blanchissaient d'écume. Tahoser promena autour d'elle ses regards effrayés. De hauts murs de briques formaient une vaste enceinte carrée où se dressait, au levant, un palais, au couchant, un temple entre deux vastes pièces d'eau, piscine des crocodiles sacrés. Les premiers rayons du soleil, dont le disque émergeait déjà derrière la chaîne arabique, jetait une lueur rose sur le sommet des constructions, dont le reste baignait encore dans une ombre bleuâtre. Aucun espoir de fuite. L'architecture, quoiqu'elle n'eût rien de sinistre, présentait un caractère de force inéluctable, de volonté sans réplique, de persistance éternelle. Un cataclysme cosmique seul eût pu ouvrir une issue dans ces murailles épaisses, à travers ces entassements de granit. pour faire tomber ces pylônes composés de quartiers de montagne, il eût fallu que la planète s'agitât sur ses bases. L'incendie même n'eût fait que lécher de sa langue ces blocs indestructibles. La pauvre Tahoser n'avait pas à sa disposition ces moyens violents, et force lui fut de se laisser emporter comme une enfant par le pharaon, sauté à bas de son char. Quatre hautes colonnes à chapiteaux de palmes formaient les propylées du palais où le roi pénétra, tenant toujours sur sa poitrine la fille de Pétamounoph. Quand il eut dépassé la porte, il posa délicatement son fardeau à terre et, voyant Tahoser chanceler, il lui dit « Rassure-toi, tu règnes sur Pharaon, et Pharaon règne sur le monde. » C'était la première parole qu'il lui adressait. Si l'amour se décidait d'après la raison, certes, Tahoser eût dû préférer Pharaon à Poëri. Le roi était doué d'une beauté surhumaine. Ses traits grands, purs, réguliers, semblaient l'ouvrage du ciseau, et l'on n'eût pu y reprendre la moindre imperfection. L'habitude du pouvoir avait mis dans ses yeux cette lumière pénétrante qui fait reconnaître entre tous les divinités et les rois. Ses lèvres, dont un mot eût changé la face du monde et le sort des peuples, étaient d'un rouge pourpre comme du sang frais sur la lame d'un glaive, et, quand il souriait, avait cette grâce des choses terribles à laquelle rien ne résiste. Sa taille haute, bien proportionnée, majestueuse, offrait la noblesse de ligne qu'on admire dans les statues des temples. Et, quand il apparaissait solennel et radieux, couvert d'or, d'émaux et de pierres précieuses, au milieu de la vapeur bleuâtre des Amchirs, il ne semblait pas faire partie de cette frêle race qui, génération par génération, tombe comme les feuilles et va s'étendre, engluée de bitume, dans les ténébreuses profondeurs des syringes. Qu'était auprès de ce demi-dieu le chétif Poëri? Et pourtant, Tahoser l'aimait. Les sages ont, depuis longtemps, renoncé à expliquer le cœur des femmes. Ils possèdent l'astronomie, l'astrologie, l'arithmétique. Ils connaissent le thème natal de l'univers et peuvent dire le domicile des planètes au moment même de la création du monde. Ils sont sûrs qu'alors la Lune était dans le signe du Cancer, le Soleil dans le Lion, Mercure dans la Vierge, Vénus dans la Balance, Mars dans le Scorpion, Jupiter dans le Sagittaire, Saturne dans le Capricorne. Ils tracent sur le papyrus ou le granit le cours de l'océan céleste qui va d'Orient en Occident. Ils ont compté les étoiles semées sur la robe bleue de la déesse Neith et font voyager le soleil à l'hémisphère supérieur et à l'hémisphère inférieur avec les 12 baris diurnes et les 12 baris nocturnes sous la conduite du pilote hiéracocéphale et de Nebwa, la dame de la barque. Ils savent qu'à la dernière moitié du mois de Tobi, Orion influe sur l'oreille gauche et Sirius sur le cœur. Mais ils ignorent entièrement pourquoi une femme préfère un homme à un autre, un misérable israélite à un pharaon illustre. Après avoir traversé plusieurs salles avec Tahoser, qu'il guidait par la main, le roi s'assit sur un siège en forme de trône, dans une chambre splendidement décorée. Au plafond bleu scintillaient des étoiles d'or, et contre les piliers qui supportaient la corniche, s'adossaient des statues de rois coiffées du pchent, les jambes engagées dans le bloc et les bras croisés sur la poitrine, dont les yeux bordés de lignes noires regardaient dans la chambre avec une intensité effrayante. Entre chaque pilier brûlait une lampe posée sur un socle, et les panneaux des murailles représentaient une sorte de défilé ethnographique. On y voyait figurer avec leur physionomie spéciale et leurs costumes particuliers les nations des quatre parties du monde. En tête de la série, guidé par Horus, le pasteur des peuples, marchait l'homme par excellence, l'Égyptien, le Rottenérum, à la physionomie douce, au nez légèrement aquilin, à la chevelure nattée, à la peau d'un rouge sombre, que faisait ressortir un pagne blanc. Ensuite venait le nègre, ou Nahasi, avec sa peau noire, ses lèvres bouffies, ses pommettes saillantes, ses cheveux crépus. Puis l'asiatique, ou Namu, à couleur de chair tirant sur le jaune, à nez fortement aquilin, à barbe noire et fournie, aiguisée en pointe, vêtue d'une jupe bariolée, frangée de houppes. Puis l'européen, ou Tamu, le plus sauvage de tous, différent des autres par son teint blanc, ses yeux bleus, sa barbe et sa chevelure rousse, une peau de bœuf non préparée jetée sur l'épaule, des tatouages aux bras et aux jambes. Des scènes de guerre et de triomphe remplissaient les autres panneaux et des inscriptions hiéroglyphiques en expliquaient le sens. Au milieu de la chambre, sur une table que supportaient des captifs liés par les coudes, sculptés si habilement qu'ils paraissaient vivre et souffrir, s'épanouissait une énorme gerbe de fleurs dont les émanations suaves parfumaient l'atmosphère. Ainsi, dans cette chambre magnifique qu'entouraient les effigies de ses aïeux, tout racontait et chantait la gloire du pharaon. Les nations du monde marchaient derrière l'Égypte et reconnaissaient sa suprématie, et lui commandait à l'Égypte. Cependant, la fille de Pétamounoph, loin d'être éblouie de cette splendeur, pensait au pavillon champêtre de Poëri, et surtout à la misérable hutte de boue et de paille du quartier des Hébreux, où elle avait laissé Raël endormie, Raël maintenant l'heureuse et seule épouse du jeune Hébreu. Pharaon tenait le bout des doigts de Tahoser debout devant lui, et il fixait sur elle ses yeux de faucon dont jamais les paupières ne palpitaient. La jeune fille n'avait pour vêtement que la draperie substituée par Raël à sa robe mouillée pendant la traversée du Nil. Mais sa beauté n'y perdait rien. Elle était là demi-nue, retenant d'une main la grossière étoffe qui glissait, et tout le haut de son corps charmant apparaissait dans sa blancheur dorée. Quand elle était parée, on pouvait regretter la place qu'occupaient ses gorgerins, ses bracelets et ses ceintures en or ou en pierre de couleur. Mais, à la voir privée ainsi de tout ornement, l'admiration se rassasiait, ou plutôt s'exaltait. Certes, beaucoup de femmes très belles étaient entrées dans le gynécée de Pharaon, mais aucune n'était comparable à Tahoser, et les prunelles du roi dardaient des flammes si vives qu'elle fut obligée de baisser les yeux, n'en pouvant supporter l'éclat. En son cœur, Tahoser était orgueilleuse d'avoir excité l'amour de Pharaon, car quelle est la femme, si parfaite qu'elle soit, qui n'ait pas de vanité? Pourtant, elle eût préféré suivre au désert le jeune Hébreu. Le roi l'épouvantait, elle se sentait éblouie des splendeurs de sa face, et ses jambes se dérobaient sous elle. Pharaon, qui vit son trouble, la fit asseoir à ses pieds sur un coussin rouge brodé et orné de houppes. « Ô Tahoser, dit-il en la baisant sur les cheveux, je t'aime. Quand je t'ai vue du haut de mon palanquin de triomphe porté au-dessus du front des hommes par les Oëris, un sentiment inconnu est entré dans mon âme. Moi, que les désirs préviennent, j'ai désiré quelque chose. J'ai compris que je n'étais pas tout. Jusque-là, j'avais vécu solitaire dans ma toute-puissance, au fond de mes gigantesques palais, entouré d'ombres souriantes qui se disaient des femmes et ne produisaient pas plus d'impression sur moi que les figures peintes des fresques. J'écoutais au loin bruire et se plaindre vaguement les nations sur la tête desquelles j'essuyais mes sandales ou que j'enlevais par leur chevelure, comme me représentent les bas-reliefs symboliques des pylônes, et, dans ma poitrine froide et compacte comme celle d'un dieu de basalte, je n'entendais pas le battement de mon cœur. Il me semblait qu'il n'y eût pas sur terre un être pareil à moi et qui pût m'émouvoir. En vain de mes expéditions chez les nations étrangères, je ramenais des vierges choisies et des femmes célèbres dans leur pays à cause de leur beauté. Je les jetais là comme des fleurs après les avoir respirées un instant. Aucune ne me faisait naître l'idée de la revoir. Présente, je les regardais à peine. Absente, je les avais aussitôt oubliées. Twéa, Taïa, Amensé, Hontretché, que j'ai gardées par le dégoût d'en chercher d'autres qui m'eussent le lendemain été aussi indifférentes que celles-là, n'ont jamais été entre mes bras que des fantômes vains, que des formes parfumées et gracieuses, que des êtres d'une autre race auxquels ma nature ne pouvait s'associer, pas plus que le léopard ne peut s'unir à la gazelle, l'habitant des airs à l'habitant des eaux. Et je pensais que, placé par les dieux en dehors et au-dessus des mortels, je ne devais partager ni leur douleur, ni leur joie. Un immense ennui, pareil à celui qu'éprouvent sans doute les momies, qui, emmaillotées de bandelettes, attendent dans leur cercueil, au fond des hypogées, que leur âme ait accompli le cercle des migrations, s'était emparée de moi sur mon trône, où souvent je restais les mains sur mes genoux comme un colosse de granit, songeant à l'impossible, à l'infini, à l'éternel. Bien des fois j'ai pensé à lever le voile d'Isis, au risque de tomber foudroyé aux pieds de la déesse. Peut-être, me disais-je, cette figure mystérieuse est-elle la figure que je rêve, celle qui doit m'inspirer de l'amour. Si la terre me refuse le bonheur, j'escaladerai le ciel. Mais je t'ai aperçu, j'ai éprouvé un sentiment bizarre et nouveau. J'ai compris qu'il existait en dehors de moi un être nécessaire, impérieux, fatal, dont je ne saurais me passer, et qui avait le pouvoir de me rendre malheureux. J'étais un roi, presque un dieu. Ô Tahoser, tu as fait de moi un homme. Jamais peut-être Pharaon n'avait prononcé un si long discours. Habituellement, un mot, un geste, un clignement d'œil lui suffisait pour manifester sa volonté, aussitôt devinée par mille regards attentifs, inquiets. L'exécution suivait sa pensée comme l'éclair suit la foudre. Pour Tahoser, il semblait avoir renoncé à sa majesté granitique. Il parlait, il s'expliquait comme un mortel. Tahoser était en proie à un trouble singulier. Quoiqu'elle fût sensible à l'honneur d'avoir inspiré de l'amour au préféré de Phré, au favori d'Amun-Ra, au conculcateur des peuples, à l'être effrayant, solennel et superbe, vers qui elle osait à peine lever les yeux, elle n'éprouvait pour lui aucune sympathie, et l'idée de lui appartenir lui inspirait une épouvante révulsive. À ce pharaon qui avait enlevé son corps, elle ne pouvait donner son âme, rester avec Poëri et Ra'el, et, comme le roi paraissait attendre une réponse, elle dit « Comment se fait-il, ô roi, que parmi toutes les filles d'Égypte ton regard soit tombé sur moi, que tant d'autres surpassent en beauté, en talent et en dons de toutes sortes? Comment, au milieu des touffes de lotus blancs, bleus et roses, à la corolle ouverte, au parfum suave, as-tu choisi l'humble brin d'herbe que rien ne distingue ?»« Je l'ignore, mais sache que toi seul existes au monde pour moi, et que je ferai les filles de roi tes servantes. » »«
Et si je ne t'aimais pas ?» dit timidement Tahoser.
« Que m'importe, si je t'aime ?» répondit Pharaon. « Est-ce que les plus belles femmes de l'univers ne se sont pas couchées en travers de mon seuil, pleurant et gémissant, s'égratignant les joues, se meurtrissant le sein, s'arrachant les cheveux, et ne sont pas mortes implorant un regard d'amour qui n'est pas descendu? La passion d'une autre n'a jamais fait palpiter ce cœur d'airain dans cette poitrine marmoréenne. Résiste-moi, aime-moi, tu n'en seras que plus charmante. Pour la première fois, ma volonté rencontrera un obstacle, et je saurai le vaincre. »
Et si j'en aimais un autre ? Continua Tahoser enhardi.
À cette supposition, les sourcils de Pharaon se contractèrent. Il mordit violemment sa lèvre inférieure, où ses dents laissèrent des marques blanches, et il serra jusqu'à lui faire mal les doigts de la jeune fille, qu'il tenait toujours. Puis il se calma et dit d'une voix lente et profonde : Quand tu auras vécu dans ce palais, au milieu de ses splendeurs, entouré de l'atmosphère de mon amour, tu oublieras tout, comme oublie celui qui mange le Nepenthès. Ta vie passée te semblera un rêve, tes sentiments antérieurs s'évaporeront comme l'encens sur le charbon de l'Amchir. La femme aimée d'un roi ne se souvient plus des hommes. Va, viens, accoutume-toi aux magnificences pharaoniques, puise à même mes trésors, fais couler l'or à flots, amoncelle les pierreries, commande, fais, défais, abaisse, élève, sois ma maîtresse, ma femme et ma reine. Je te donne l'Égypte avec ses prêtres, ses armées, ses laboureurs, son peuple innombrable, ses palais, ses temples, ses villes. Fripe-la comme un morceau de gaze. Je t'aurai d'autres royaumes, plus grands, plus beaux, plus riches. Si le monde ne te suffit pas, je conquérirai des planètes, je détrônerai des dieux. Tu es celle que j'aime. Tahoser, la fille de Pétamounoph, n'existe plus. » Fin du chapitre 13. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2011. Chapitre 14 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Quand Ra'el s'éveilla, elle fut surprise de ne plus trouver Tahoser à côté d'elle, et promena ses regards autour de la chambre, croyant que l'Égyptienne s'était déjà levée. Accroupie dans un coin, Tamar, les bras croisés, sur les genoux, la tête posée sur ses bras, oreiller osseux, dormait, ou plutôt faisait semblant de dormir, car, à travers les mèches grises de sa chevelure en désordre qui ruisselait jusqu'à terre, on eût pu entrevoir ses prunelles fauves comme celles d'un hibou, phosphorescentes de joie maligne et de méchanceté satisfaite. « Tamar ! » s'écria Raël, « qu'est devenue Tahoser ?» La vieille, comme si elle se fût éveillée en sursaut à la voix de sa maîtresse, déplia lentement ses membres d'araignée, se dressa sur ses pieds, frotta à plusieurs reprises ses paupières bistrées avec le dos de sa main jaune plus sèche que celle d'une momie, et dit d'un air d'étonnement très bien joué « Est-ce qu'elle n'est plus là ?»« Non, » répondit Raël, « et, si je ne voyais encore sa place creusée sur le lit à côté de la mienne, et pendue à cette cheville la robe qu'elle a quittée, je croirais que les bizarres événements de cette nuit n'étaient que les illusions d'un rêve. » Quoiqu'elle sût parfaitement à quoi s'en tenir sur la disparition de Tahoser, Tamar souleva un bout de draperie tendu à l'angle de la chambre, comme si l'Égyptienne eût pu se cacher derrière. Elle ouvrit la porte de la cabane et, debout sur le seuil, explora minutieusement du regard les environs, puis, se retournant vers l'intérieur, elle fit à sa maîtresse un signe négatif. « C'est étrange, » dit Raël pensive. « Maîtresse, » dit la vieille en se rapprochant de la belle Israélite avec des façons doucereuses et câlines, « tu sais que cette étrangère m'avait déplu. » « Tout le monde te déplaît, Tamar, » répondit Raël en souriant. « Excepté toi, maîtresse, » dit la vieille en portant à ses lèvres la main de la jeune femme. « Oh, je le sais, tu m'es dévouée. Je n'ai jamais eu d'enfant, et parfois me figure que je suis ta mère. « Bonne Tamar, » dit Raël attendrie. « Avais-je tort, » continua Tamar, « de trouver son apparition étrange ? » Sa disparition l'explique. Elle se disait Tahoser, fille de Pétamounoph. Ce n'était qu'un démon ayant pris cette forme pour séduire et tenter un enfant d'Israël. As-tu vu comme elle s'est troublée lorsque Poëri a parlé contre les idoles de pierre, de bois et de métal ? Et comme elle a eu de la peine à prononcer ces paroles, « Je tâcherai de croire à ton Dieu. » On eût dit que le mot lui brûlait les lèvres comme un charbon. Ces larmes qui tombaient sur mon cœur étaient bien de vraies larmes, des larmes de femme, dit Raël. Les crocodiles pleurent quand ils veulent, et les hyènes rient pour attirer leur proie, continua la vieille. Les mauvais esprits qui rôdent la nuit parmi les pierres et les ruines savent bien des ruses et jouent tous les rôles.
Ainsi, selon toi, cette pauvre Tahoser n'était qu'un fantôme animé par l'enfer?
Assurément, répondit Tamar. Est-il vraisemblable que la fille du grand prêtre Pétamounoph se soit éprise de Poëri et l'ait préférée à Pharaon, qu'on prétend amoureux d'elle?
Raël, qui ne mettait personne au monde au-dessus de Poëri, ne trouvait pas la chose si invraisemblable.
Si elle l'aimait autant qu'elle le disait, pourquoi s'est-elle sauvée lorsque, avec ton consentement, il l'admettait comme seconde épouse? C'est la condition de renoncer au faux Dieu et d'adorer Jéhovah qui a mis en fuite ce diable déguisé.
« En tout cas, » dit Raël, « ce démon avait la voix bien douce et les yeux bien tendres. » Au fond, Raël n'était peut-être pas très mécontente de la disparition de Tahoser. Elle gardait tout entier le cœur dont elle avait bien voulu céder la moitié, et la gloire du sacrifice lui restait. Sous prétexte d'aller aux provisions, Tamar sortit et se dirigea vers le palais du roi, dont sa cupidité n'avait pas oublié la promesse. Elle s'était munie d'un grand sac de toile grise pour le remplir d'or. Quand elle se présenta à la porte du palais, les soldats ne la battirent plus comme la première fois. Elle avait déjà du crédit, et l'oériste garde la fit entrer tout de suite. Timopht la conduisit au pharaon. Lorsqu'il aperçut l'immonde vieille qui rampait vers son trône comme un insecte à moitié écrasé, le roi se souvint de sa promesse et donna ordre qu'on ouvrit une des chambres de granit à la juive et qu'on l'y laissât prendre autant d'or qu'elle en pourrait porter. Timopht, en qui Pharaon avait confiance et qui connaissait le secret de la serrure, ouvrit la porte de pierre. L'immense tas d'or étincela sous un rayon de soleil. Mais l'éclair du métal ne fut pas plus brillant que le regard de la vieille. Ses prunelles jaunirent et scintillèrent étrangement.
Après quelques minutes de contemplation éblouie, elle releva les manches de sa tunique rapiécée, mit à nu ses bras secs, dont les muscles saillaient comme des cordes et que plissaient à la saignée d'innombrables rides. Puis elle ouvrit et referma ses doigts recourbés, pareils à des serres de griffons, et se lança sur l'amas de sicles d'or avec une avidité farouche et bestiale. Elle se plongeait dans les lingots jusqu'aux épaules, les brassait, les agitait, les roulait, les faisait sauter. Ses lèvres tremblaient, ses narines se dilataient, et sur son échine convulsive couraient des frissons nerveux. Enivrée, folle, secouée de trépidations et de rires spasmodiques, elle jetait des poignées d'or dans son sac en disant « Encore, encore, encore !» tant qu'il fut bientôt plein jusqu'à l'ouverture. Timopht, que le spectacle amusait, la laissait faire, n'imaginant pas que ce spectre décharné pût remuer ce poids énorme. Mais Tamar lia d'une corde le sommet de son sac et, à la grande surprise de l'Égyptien, le chargea sur son dos. L'avarice prêtait à cette carcasse délabrée des forces inconnues. Tous les muscles, tous les nerfs, toutes les fibres des bras, du cou, des épaules, tendues à rompre, soutenaient une masse de métal qui eût fait plier le plus robuste porteur de la race nazie. Le front penché comme celui d'un bœuf quand le soc de la charrue a rencontré une pierre. Tamar, dont les jambes titubaient, sortit du palais, se heurtant au mur, marchant presque à quatre pattes, car souvent elle envoyait ses mains à terre pour ne pas être écrasée sous le poids. Mais enfin, elle sortit, et la charge d'or lui appartenait légitimement. Haletante, épuisée, couverte de sueur, le dos meurtri, les doigts coupés, elle s'assit à la porte du palais sur son bienheureux sac, et jamais siège ne lui parut plus moelleux. Au bout de quelque temps, elle aperçut deux Israélites qui passaient avec une civière, revenant de porter quelques fardeaux. Elle les appela, et, en leur promettant une bonne récompense, elle les détermina à se charger du sac et à la suivre. Les deux Israélites, que Tamar précédait, s'engagèrent dans les rues de Thèbes, arrivèrent au terrain vague, mamelonnés de cahutes en boue, et déposèrent le sac dans l'une d'elles. Tamar leur donna, quoiqu'en rechignant, la récompense promise. Cependant, Tahoser avait été installée dans un appartement splendide, un appartement royal, aussi beau que celui de Pharaon. D'élégantes colonnes à chapiteaux de lotus soutenaient le plafond étoilé qu'encadrait une corniche à palmettes bleues peinte sur un vernis d'or. Des panneaux lilas tendres, avec des filets verts terminés par des boutons de fleurs, dessinaient leur symétrie sur les murailles. Une fine natte recouvrait les dalles. Des canapés incrustés de plaquettes de métal alternant avec des émaux et garnis d'étoffes à fond noir semées de cercles rouges, des fauteuils à pieds de lion dont le coussin débordait sur le dossier, des escarbeaux formés de cols de cygnes enlacés, des piles de carreaux en cuir pourpre gonflés de barbes de chardon, des sièges où l'on pouvait s'asseoir deux, des tables de bois précieux que contenaient des statues de captives asiatiques composaient l'ameublement. Sur des socles richement sculptés posaient de grands vases et de larges cratères d'or, d'un prix inestimable, dont le travail l'emportait sur la matière. L'un d'eux, effilé à la base, était soutenu par deux têtes de chevaux s'encapuchonnant sous leur harnais à franges. Deux tiges de lotus, retombant avec grâce par-dessus deux rosaces, formaient l'aisance. Des ibex hérissaient le couvercle de leurs oreilles et de leurs cornes, et sur la panse couraient, parmi des hampes de papyrus, des gazelles poursuivies. Un autre, non moins curieux, avait pour couvercle une tête monstrueuse de typhon, coiffée de palmes et grimaçant entre deux vipères. Ses flancs étaient ornés de feuilles et de zones denticulées. L'un des cratères, qu'élevaient en l'air deux personnages mitrés, vêtus de robes à large bordure, qui, d'une main, soutenaient l'anse et, de l'autre, le pied, étonnait par sa dimension énorme, par la valeur et le fini de ses ornements. L'autre, plus simple et plus pur de forme peut-être, s'évasait gracieusement et des chacals, posant leurs pattes sur son bord comme pour y boire, lui dessinaient des anses avec leur corps svelte et souple. des miroirs de métal entourés de figures difformes, comme pour donner à la beauté qui s'y regardait le plaisir du contraste, des coffres en bois de cèdre ou de sycomore ornementés et peints, des coffrets en terre émaillée, des buires d'albâtre, d'onyx et de verre, des boîtes d'aromates, témoignaient de la magnificence de Pharaon à l'endroit de Tahoser. Avec les choses précieuses que contenait cette chambre, on eût pu payer la rançon d'un royaume. Assise sur un siège d'ivoire, Tahoser regardait les étoffes et les bijoux que lui montraient de jeunes filles nues, éparpillant les richesses contenues dans les coffres. Tahoser sortait du bain, et les huiles aromatiques dont on l'avait frottée assouplissaient encore la pulpe moelleuse et fine de sa peau. Sa chair prenait des transparences d'agate, et la lumière semblait la traverser. Elle était d'une beauté surhumaine, et, quand elle fixa sur le métal bruni du miroir ses yeux avivés d'antimoine, elle ne put s'empêcher de sourire à son image. Une large robe de gaze enveloppait son beau corps sans le cacher, et pour tout ornement, elle portait un collier composé de cœurs en lapis-lazuli, surmonté de croix et suspendus à un fil de perles d'or. Pharaon parut sur le seuil de la salle. Une vipère d'or ceignait son épaisse chevelure, et une calasiris, dont les plis ramenés par devant formaient la pointe, lui entourait le corps de la ceinture aux genoux. Un seul gorgerin cerclait son cou aux muscles invaincus. En apercevant le roi, Tahoser voulut se lever de son siège et se prosterner. Mais Pharaon vint à elle, la releva et la fit asseoir. « Ne t'humilie pas ainsi, Tahoser, lui dit-il d'une voix douce. « Je veux que tu sois mon égal. Il m'ennuie d'être seul dans l'univers. Quoique je sois tout-puissant et que je t'aie en ma possession, j'attendrai que tu m'aimes comme si je n'étais qu'un homme. Écarte toute crainte. Sois une femme avec ses volontés, ses sympathies, ses antipathies, ses caprices. Je n'en ai jamais vu. Mais si ton cœur parle enfin pour moi, pour que je le sache, tends-moi, quand j'entrerai dans ta chambre, la fleur de lotus de ta coiffure. » Quoi qu'il fît pour l'empêcher, Tahoser se précipita aux genoux du pharaon et laissa tomber une larme sur ses pieds nus. « Pourquoi mon âme est-elle à Poëri ?» se disait-elle en reprenant sa place sur son siège d'ivoire. Timopht, mettant une main à terre et l'autre sur sa tête, pénétra dans la chambre. « Roi, dit-il, un personnage mystérieux demande à te parler. Sa barbe immense descend jusqu'à son ventre. Des cornes luisantes possèdent son front dénudé et ses yeux brillent comme des flammes. Une puissance inconnue le précède, car tous les gardes s'écartent et toutes les portes s'ouvrent devant lui. Ce qu'il dit, il faut le faire, et je suis venu à toi, au milieu de tes plaisirs, dû la mort punir mon audace. « Comment s'appelle-t-il » dit le roi. Timopht répondit « Moshé ». Fin du chapitre 14. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2011. Chapitre 15 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. Le roi passa dans une autre salle pour recevoir Moshé et s'assit sur un trône dont les bras étaient formés par des lions. Il entoura son cou d'un large pectoral, saisit son sceptre et prit une pose de superbe indifférence. Moshé parut. Un autre hébreu, nommé Aharon, l'accompagnait. Quelque auguste que fût le pharaon sur son trône d'or, entouré de ses oéris et de ses flabellifères, dans cette haute salle aux colonnes énormes, sur ce fond de peinture représentant les hauts faits de ses aïeux ou les siens, Moshé n'était pas moins imposant. La majesté de l'âge équivalait chez lui à la majesté royale. Quoiqu'il eût 80 ans, il semblait d'une vigueur toute virile, et rien en lui ne trahissait les décadences de la sénilité. Les rides de son front et de ses joues, pareilles à des traces de ciseaux sur du granit, le rendaient vénérable, sans accuser la date des années. Son cou brun et plissé se rattachait à ses fortes épaules par des muscles décharnés, mais puissants encore, et un lacis de veines drues se tordait sur ses mains, que n'agitait pas le tremblement habituel au vieillard. Une âme plus énergique que l'âme humaine vivifiait son corps, et sur sa face brillait, même dans l'ombre, une lueur singulière. On eût dit le reflet d'un soleil invisible. Sans se prosterner, comme c'était l'habitude lorsqu'on approchait du roi, Mosché s'avança vers le trône de Pharaon et lui dit « Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il me célèbre une solennité au désert. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel dont je dois écouter la voix pour laisser partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. » Sans se laisser intimider par les paroles du roi, le grand vieillard répéta avec netteté, car l'ancien bégayement dont il était affligé avait disparu. « Le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Nous voulons donc aller à une distance de 3 jours dans le désert et y sacrifier à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe de la peste ou du glaive. » Aaron confirma par un signe de tête la demande de Mosché. « Pourquoi détournez-vous le peuple de ses occupations ? » répondit le pharaon. « Allez à vos travaux. Heureusement pour vous que je suis aujourd'hui d'humeur clémente, car j'aurais pu vous faire battre de verges, couper le nez et les oreilles, jeter tout vif au crocodile. Sachez, je veux bien vous le dire, qu'il n'y a d'autre dieu qu'Amon-Ra, l'être suprême et primordial, à la fois mâle et femelle, son propre père et sa propre mère, dont il est aussi le mari. De lui découlent tous les autres dieux qui relient le ciel à la terre, et ne sont que des formes de ces deux principes constituants. Les sages le connaissent, et les prêtres qui ont longtemps étudié les mystères dans les collèges et au fond des temples consacrés à ces représentations diverses. N'alléguez donc pas un autre dieu de votre invention pour émouvoir les Hébreux à la révolte et les empêcher d'accomplir la tâche imposée. Votre prétexte de sacrifice est transparent. Vous voulez fuir. Retirez-vous de devant ma face et continuez à mouler l'argile pour mes édifices royaux et sacerdotaux, pour mes pyramides, mes palais et mes murailles. Allez, j'ai dit. » Mosché, voyant qu'il ne pouvait émouvoir le cœur du pharaon, et que, s'il insistait, il exciterait sa colère, se retira en silence, suivi d'Aaron consterné. « J'ai obéi aux ordres de l'Éternel, » dit Mosché à son compagnon lorsqu'il eut franchi le pylône. Mais Pharaon est resté insensible comme si j'eusse parlé à ces hommes de granit assis sur des trônes à la porte des palais, ou à ces idoles à tête de chien, de singe ou d'épervier, qu'encensent les prêtres au fond des sanctuaires. Qu'allons-nous répondre au peuple quand il nous interrogera sur le succès de notre mission ? Pharaon, craignant que les Hébreux n'eussent l'idée de secouer le joug, d'après les suggestions de Mosché, les fit travailler plus durement encore, et leur refusa la paille pour mêler à leurs briques. Aussi les enfants d'Israël se répandirent-ils par toute l'Égypte, arrachant le chaume et maudissant les exacteurs, car ils se trouvaient très malheureux, et ils disaient que les conseils de Mosché avaient redoublé leur misère. Un jour, Mosché et Aaron reparurent au palais et sommèrent encore une fois le roi de laisser partir les Hébreux pour aller sacrifier à l'Éternel dans le désert. « Qui me prouve, répondit Pharaon, que vraiment l'Éternel vous envoie vers moi pour me dire ces choses et que vous n'êtes pas, comme je l'imagine, de vils imposteurs ?» Aaron jeta son bâton devant le roi et le bois commença à se tordre, à onduler, à se couvrir d'écailles, à remuer la tête et la queue, à se dresser et à pousser des sifflements horribles. Le bâton s'était changé en serpent. Il faisait bruire ses anneaux sur les dalles, gonflait sa gorge, dardait sa langue fourchue et, roulant ses yeux rouges, semblait choisir la victime qu'il devait piquer. Les oëris et les serviteurs rangés autour du trône restaient immobiles et muets d'effroi à la vue de ce prodige. Les plus braves avaient tiré à demi leur épée. Mais Pharaon ne s'en émut aucunement. Un sourire dédaigneux voltigea sur ses lèvres, et il dit « Voilà ce que vous savez faire. Le miracle est mince et le prestige grossier. Qu'on fasse venir mes sages, mes magiciens et mes hiéroglyphites. » Ils arrivèrent. C'étaient des personnages d'un aspect formidable et mystérieux, la tête rasée, chaussée de souliers de byblos, vêtus de longues robes de lin, tenant en main des bâtons gravés d'hiéroglyphes. Ils étaient jaunes et desséchés comme des momies, à force de veille, d'étude et d'austérité. Les fatigues des initiations successives se lisaient sur leurs visages, où les yeux seuls semblaient vivants. Ils se rangèrent en ligne devant le trône de Pharaon, sans faire même attention aux serpents qui frétillaient, rampaient et sifflaient. « Pouvez-vous, dit le roi, changer vos cannes en reptiles, comme vient de le faire Aaron ?»«
Ô roi, est-ce pour ce jeu d'enfant, dit le plus ancien de la bande,
que tu nous as fait venir du fond des chambres secrètes, où, sous des plafonds constellés, à la lueur des lampes, nous rêvons, penchés sur des papyrus indéchiffrables, agenouillés devant des stèles hiéroglyphiques au sens mystérieux et profond, crochetant les secrets de la nature, calculant la force des nombres, portant notre main tremblante au bord du voile de la grande Isis? Laisse-nous retourner, car la vie est courte, et à peine le sage a-t-il le temps de jeter à l'autre le mot qu'il a saisi. Laisse-nous retourner à nos travaux. Le premier jongleur, le psyl qui joue son air de flûte sur les places, suffit à te contenter.
« Ennana, fais ce que je désire, » dit Pharaon au chef des hiéroglyphites et des magiciens. Le vieil Ennana se retourna vers le collège des sages, qui se tenait debout, immobile, et l'esprit déjà replongé dans l'abîme des méditations. Jetez vos cannes à terre en prononçant tout bas le mot magique. Les bâtons avec un bruit sec tombèrent ensemble sur les dalles, et les sages reprirent leur pose perpendiculaire, semblables aux statues adossées aux piliers des temples. Ils ne daignaient même pas regarder à leurs pieds si le prodige s'accomplissait, tellement ils étaient sûrs de la puissance de leur formule. Et alors ce fut un étrange et horrible spectacle. Les cannes se tordirent comme des branches de bois vert sur le feu. Leurs extrémités s'aplatirent en tête, s'effilèrent en queue. Les unes restèrent lisses, les autres s'écaillèrent selon l'espèce du serpent. Cela grouillait, cela rampait, cela sifflait, cela s'enlaçait et se nouait hideusement. Il y avait des vipères portant la marque d'un fer de lance sur leur front écrasé, des cérastes aux protubérances menaçantes, des hydres verdâtres et visqueuses, des aspics aux crochets mobiles, des trigonocéphales jaunes, des orvets ou serpents de verre, des crotales aux museaux courts, à la robe noirâtre, faisant sonner les osselets de leur queue, des amphisbènes marchant en avant et en arrière, des boas ouvrant leurs larges gueules capables d'engloutir le bœuf apis, des serpents aux yeux entourés de disques comme ceux des hiboux. Le pavé de la salle en était couvert. Tahoser, qui partageait le trône du pharaon, levait ses beaux pieds nus et les ramenait sous elle, toute pâle d'épouvante. « Eh bien, dit Pharaon à Mosché, tu vois que la science de mes hiéroglyphites égale ou surpasse la tienne. Leurs bâtons ont produit des serpents comme celui d'Aaron. Invente un autre prodige, si tu veux me convaincre. »
Mosché étendit la main, et le serpent d'Aaron se précipita vers les 24 reptiles. La lutte ne fut pas longue. Il eut bientôt englouti les affreuses bêtes, créations réelles ou apparentes des sages d'Égypte. Puis, il reprit sa forme de bâton. Ce résultat parut étonner Ennana. Il pencha la tête, réfléchit et dit, comme un homme qui se ravise, « Je trouverai le mot et le signe. J'ai mal interprété le quatrième hiéroglyphe de la cinquième ligne perpendiculaire où se trouve la conjuration des serpents. Ô roi, as-tu encore besoin de nous ? Dit tout haut le chef des hiéroglyphites. Il me tarde de reprendre la lecture d'Hermès Trismégiste, qui contient bien d'autres secrets que ces tours de passe-passe. » Pharaon fit signe au vieillard qu'il pouvait se retirer, et le cortège silencieux rentra dans les profondeurs du palais. Le roi revint au gynécée avec Tahoser. La fille du prêtre, effrayée et toute tremblante encore de ses prodiges, s'agenouilla devant lui et lui dit « Ô Pharaon, ne crains-tu pas d'irriter par ta résistance ce Dieu inconnu auquel les Israélites veulent aller sacrifier dans le désert à 3 jours de distance ? Ô Pharaon, ne crains-tu pas d'irriter par ta résistance ce Dieu inconnu auquel les Israélites veulent aller sacrifier dans le désert à 3 jours de distance ? Laisse partir Mosché et ses Hébreux pour accomplir leur rite, car peut-être l'Éternel, comme il le nomme,
éprouvera la terre d'Égypte et nous fera mourir. »
Quoi ? Cette jonglerie de reptiles t'épouvante ? Répondit Pharaon. « Ne vois-tu pas que mes sages ont produit des serpents avec leurs bâtons ?»«
Oui, mais celui d'Aaron les a dévorés, et c'est un mauvais présage. »«
Qu'importe, ne suis-je pas le favori de Phré, le préféré d'Amon-Ra ? N'ai-je pas sous mes sandales l'effigie des peuples vaincus ? D'un souffle, je balayerai, quand je voudrais, toute cette engeance hébraïque, et nous verrons si leur Dieu saura les protéger. »«
Prends garde, Pharaon, » dit Tahoser, qui se souvenait des paroles de Poëri sur la puissance de Jéhovah. « Ne laisse pas l'orgueil endurcir ton cœur. Ce Moshé et cet Aaron m'épouvantent. Pour qu'ils affrontent ton courroux, il faut qu'ils soient soutenus par un dieu bien terrible. »
« Si leur dieu avait tant de puissance, » dit Pharaon, répondant à la crainte exprimée par Tahoser, « les laisserait-il ainsi captifs, humiliés et pliants comme des bêtes de somme sous les plus durs travaux ? Oublions donc ces vains prodiges et vivons en paix. Pense plutôt à l'amour que j'ai pour toi, et songe que Pharaon a plus de pouvoir que l'Éternel, chimérique divinité des Hébreux.
Oui, tu es le conculcateur des peuples, le dominateur des trônes, et les hommes sont devant toi comme les grains de sable que soulève le vent du sud. Je le sais, répliqua Tahoser.
Et pourtant je ne puis me faire aimer de toi, dit Pharaon en souriant.
L'ibex a peur du lion, la colombe redoute l'épervier, la prunelle craint le soleil, et je ne te vois encore qu'à travers les terreurs et les éblouissements. La faiblesse humaine est longue à se familiariser avec la majesté royale. Un dieu effraie toujours une mortelle.
Tu m'inspires le regret, Tahoser, de n'être pas le premier venu, un Oëris, un monarque, un prêtre, un agriculteur, ou moins encore. Mais puisque je ne saurais faire du roi un homme, je peux faire de la femme une reine et nouer la vipère d'or à ton front charmant. La reine n'aura plus peur du roi.
Même lorsque tu me fais asseoir près de toi, sur ton trône, ma pensée reste agenouillée à tes pieds. Mais tu es si bon, malgré ta beauté surhumaine, ton pouvoir sans bornes et ton éclat fulgurant, que peut-être mon cœur s'enhardira et osera battre sur le tien.
C'est ainsi que devisaient Pharaon et Tahoser. La fille du prêtre ne pouvait oublier Poëri et cherchait à gagner du temps en flattant de quelque espoir la passion du roi. S'échapper du palais, aller retrouver le jeune Hébreu, était chose impossible. Poëri, d'ailleurs, acceptait son amour plutôt qu'il ne le partageait. Ra'hel, malgré sa générosité, était une dangereuse rivale. Et puis la tendresse de Pharaon touchait la fille du prêtre. Elle eût désiré l'aimer, et peut-être en était-elle moins loin qu'elle ne le croyait. Fin du chapitre 15, enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en septembre 2011.
Chapitre 16 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16. À quelques jours de là, Pharaon côtoyait le Nil, debout sur son char et suivi de son cortège. Il allait voir quel degré atteignait la crue du fleuve, lorsqu'au milieu du chemin se dressèrent comme deux fantômes Aaron et Moshé. Le roi retint ses chevaux, qui secouaient déjà leurs baves sur la poitrine du grand vieillard immobile. Moshé, d'une voix lente et solennelle, répéta son adjuration. « Prouve par quelque miracle la puissance de ton Dieu, » répondit le roi, « et je t'accorde ta demande. » Se tournant vers Aaron, qui le suivait à quelques pas, Moshé dit « Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs fleuves, leurs lacs et leurs rassemblements d'eau, qu'ils deviennent du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, ainsi que dans les vases de bois et de pierre. » Aaron brandit sa verge et en frappa l'eau du fleuve. La suite de Pharaon attendait le résultat avec anxiété. Le roi, qui portait un cœur d'airain dans une poitrine de granit, souriait dédaigneusement, se fiant à la science de ses hiéroglyphites pour confondre ses magiciens étrangers. Dès que le bâton de l'Hébreu, ce bâton qui avait été serpent, frappa le fleuve, les eaux commencèrent à se troubler et à bouillonner. Leur couleur limoneuse s'altéra d'une façon sensible. Des tons rougeâtres s'y mêlèrent, puis toute la masse prit une sombre couleur de pourpre
et le Nil parut comme un fleuve de sang roulant des vagues écarlates et brodant ses rives d'écume rose. On eût dit qu'il reflétait un immense incendie ou un ciel flamboyant d'éclairs, mais l'atmosphère était calme. Thèbes ne brûlait pas, et le bleu immuable s'étendait sur cette nappe rougie que tachetaient çà et là des ventres blancs de poissons morts. Les longs crocodiles squameux, s'aidant de leurs pattes coudées, émergeaient du fleuve sur la rive, et les lourds hippopotames, pareils à des blocs de granit rose recouverts d'une lèpre de mousse noire, s'enfuyaient à travers les roseaux ou levaient au-dessus du fleuve leurs mufles énormes, ne pouvant plus respirer dans cette eau sanglante. Les canaux, les viviers, les piscines avaient pris les mêmes teintes, et les coupes pleines d'eau étaient rouges comme les cratères où l'on reçoit le sang des victimes. Pharaon ne s'étonna pas de ce prodige, et il dit aux deux Hébreux « Ce miracle pourrait épouvanter une populace crédule et ignorante, mais il n'y a là rien qui me surprenne. Qu'on fasse venir Ennana et le collège des hiéroglyphites. Ils vont refaire ce tour de magie. » Les hiéroglyphites vinrent, leur chef en tête. Ennana jeta un regard sur le fleuve roulant des flots empourprés, et il vit de quoi il s'agissait. « Remets les choses en l'état primitif, » dit-il au compagnon de Mosché, « que je refasse ton enchantement. » Aaron frappa de nouveau le fleuve, qui reprit aussitôt sa couleur naturelle. Ennana fit un signe d'approbation, comme un savant impartial qui rend justice à l'habileté d'un confrère. Il trouvait la chose bien faite pour quelqu'un qui n'avait pas eu, ainsi que lui, l'avantage d'étudier la sagesse dans les chambres mystérieuses du labyrinthe, où quelques rares initiés peuvent seuls parvenir, tant les épreuves à subir sont rebutantes. « À mon tour, » dit-il, « maintenant. » Et il étendit sur le Nil sa canne gravée de signes hiéroglyphiques, en marmottant quelques mots d'une langue si ancienne qu'elle ne devait déjà plus être comprise au temps de Ménéi, le premier roi d'Égypte. Une langue de sphinx, aux syllabes de granit. Une immense nappe rouge s'étendit soudainement d'une rive à l'autre, et le Nil recommença à rouler ses ondes sanglantes vers la mer. Les 24 hiéroglyphites saluèrent le roi comme s'ils allaient se retirer. « Restez, » dit Pharaon. Ils reprirent leur contenance impassible. « N'as-tu pas d'autre preuve à me donner de ta mission que celle-là ? Mes sages, comme tu vois, imitent assez bien tes prestiges. » Sans paraître découragé des paroles ironiques du roi, Mosché lui dit « Dans 7 jours, si tu n'es décidé à laisser aller les Israélites au désert pour sacrifier à l'Éternel selon leur rite, je reviendrai et je ferai devant toi un autre miracle. » Au bout de 7 jours, Mosché reparut. Il dit à son serviteur Aaron les paroles de l'Éternel. « Étends ta main avec ton bâton sur les rivières, les fleuves, les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aussitôt qu'Aaron eut fait le geste, du fleuve, des canaux, des rivières, des marais, surgirent des millions de grenouilles. Elles couvraient les champs et les chemins, sautaient sur les marches des temples et des palais, envahissaient les sanctuaires et les chambres les plus retirées, et toujours des légions nouvelles succédaient aux premières apparues. Il y en avait dans les maisons, dans les pétrins, dans les fours, dans les coffres. On ne pouvait poser le pied nulle part sans en écraser une. Mues comme par des ressorts, elles bondissaient entre les jambes, à droite, à gauche, en avant, en arrière. À perte de vue, on les voyait, clapoter, sauteler, passer les unes sur les autres, car déjà la place leur manquait et leurs rangs s'épaississaient, s'entassaient, s'empilaient. Leurs innombrables dos verts formaient sur la campagne comme une prairie animée et vivante, où brillaient, pour fleurs, leurs yeux jaunes. Les animaux, chevaux, ânes, chèvres, effrayés et révoltés, fuyaient à travers champs, mais retrouvaient partout cette immonde pullulation. Pharaon, qui du seuil de son palais contemplait cette marée montante de grenouilles d'un air ennuyé et dégoûté, en écrasait le plus qu'il pouvait du bout de son sceptre, et repoussait les autres de son patin recourbé. Peine inutile. De nouvelles venues, sorties on ne sait d'où, remplaçaient les mortes, plus grouillantes, plus coassantes, plus immondes, plus incommodes, plus effrontées, faisant saillir l'os de leur échine, fixant sur lui leurs gros yeux ronds, écarquillant leurs doigts palmés,
ridant la peau blanche de leurs goîtres. Les sales bêtes semblaient douées d'intelligence, et leurs bancs étaient plus denses autour du roi que partout ailleurs. L'inondation fourmillante montait, montait toujours, sur les genoux des colosses, sur les corniches des pylônes, sur le dos des sphinx et des cryosphinx, sur l'entablement des temples, sur les épaules des dieux, sur le pyramidion des obélisques, les hideuses bestioles, le dos gonflé, les pattes reployées, avaient pris position. Les ibis, qui d'abord, réjouis de cette aubaine inattendue, les piquaient de leur long bec et les avalaient par centaines, commençant à s'alarmer de cet envahissement prodigieux, s'envolaient au plus haut du ciel avec des claquements de mandibules. Aaron et Mosché triomphaient. Ennana, convoquée, paraissait réfléchir. Le doigt posé sur son front chauve, les yeux demi-fermés, on eût dit qu'il cherchait au fond de sa mémoire une formule magique oubliée. Pharaon, inquiet, se tourna vers lui. « Eh bien, Ennana, à force de rêver, as-tu perdu la tête? Et ce prodige serait-il au-dessus de ta science ?»« Nullement, ô roi. Mais quand on mesure l'infini, qu'on suppute l'éternité et qu'on épelle l'incompréhensible, il peut arriver qu'on n'ait pas présent à l'esprit le mot baroque qui domine les reptiles, les fait naître ou les anéantit. Regarde bien, toute cette vermine va disparaître. » Le vieil hiéroglyphite agita sa baguette et dit tout bas quelques syllabes. En un instant, les champs, les places, les chemins, les quais du fleuve, les rues de la ville, les cours des palais, les chambres des maisons, furent nettoyés de leurs hôtes coassants et rendus à leur état primitif. Le roi sourit, fier du pouvoir de ses magiciens. « Ce n'est pas assez d'avoir rompu l'enchantement d'Aaron, » dit Ennana. « Je vais le refaire. » Ennana agita sa baguette en sens inverse et prononça tout bas la formule contraire. Aussitôt, les grenouilles reparurent en plus grand nombre que jamais, sautillant et coassant. En un clin d'œil, la terre en fut couverte. Mais Aaron étendit son bâton, et le magicien d'Égypte ne put dissiper l'invasion provoquée par ses enchantements. Il eut beau redire les mots mystérieux, l'incantation avait perdu sa puissance. Le collège des hiéroglyphites se retira rêveur et confus, poursuivi par l'immonde fléau. Les sourcils de Pharaon se contractèrent de fureur. Mais il resta dans son endurcissement, et ne voulut pas obtempérer à la supplication de Mosché. Son orgueil essaya de lutter jusqu'au bout contre le Dieu inconnu d'Israël. Cependant, ne pouvant se débarrasser de ces horribles bêtes, Pharaon promit à Mosché, s'il intercédait pour lui près de son Dieu, d'accorder aux Hébreux la liberté de sacrifier dans le désert. Les grenouilles moururent ou rentrèrent sous les eaux. Mais le cœur de Pharaon s'appesantit, et, malgré les douces remontrances de Tahoser, il ne tint pas sa promesse. Alors ce fut sur l'Égypte un déchaînement de fléaux et de plaies. Une lutte insensée s'établit entre les hiéroglyphites et les deux Hébreux dont ils répétaient les prodiges. Mosché changea toute la poussière d'Égypte en insectes, et Nana en fit autant. Mosché prit deux poignées de suie et les lança vers le ciel devant le pharaon. Et aussitôt une peste rouge, des feux ardents, s'attachèrent à la peau du peuple d'Égypte, respectant les Hébreux. « Imite ce prodige !» s'écria Pharaon hors de lui, et rouge comme s'il avait eu sur la face le reflet d'une fournaise, en s'adressant au chef des hiéroglyphites. « À quoi bon ?» répondit le vieillard d'un ton découragé. « Le doigt de l'inconnu est dans tout ceci. Nos vaines formules ne sauraient prévaloir contre cette force mystérieuse. Soumets-toi, et laisse-nous rentrer dans nos retraites pour étudier ce dieu nouveau, cet éternel plus puissant qu'Amon-Ra, qu'Osiris et que Typhon. La science d'Égypte est vaincue. L'énigme que garde le sphinx n'a pas de mots, et la grande pyramide ne recouvre que le néant de son énorme mystère. » Comme Pharaon refusait toujours de laisser partir les Hébreux, tout le bétail des Égyptiens fut frappé de mort. Les Israélites n'en perdirent pas une seule tête. Un vent du sud s'éleva et souffla toute la nuit, et lorsqu'au matin le jour parut, un immense nuage roux voilait le ciel d'un bout à l'autre. À travers ce brouillard fauve, le soleil luisait rouge comme un bouclier dans la forge et semblait dépouillé de rayons. ce nuage différait des autres nuages. Il était vivant et bruissait et battait des ailes et s'abattait sur la terre, non en grosses gouttes de pluie, mais en bancs de sauterelles roses, jaunes et vertes, plus nombreuses que les grains de sable au désert libyque. Elles se succédaient par tourbillons, comme la paille que disperse l'orage. L'air en était obscurci, épaissi. Elles comblaient les fossés, les ravines, les cours d'eau, éteignaient sous leur masse les feux allumés pour les détruire. Elles se heurtaient aux obstacles et s'y amoncelaient, puis les débordaient. Ouvrait-on la bouche, on en respirait une. Elles se logeaient dans les plis des vêtements, dans les cheveux, dans les narines. Leurs épaisses colonnes faisaient rebrousser les chars, renversaient le passant isolé et le recouvraient bientôt. Leur formidable armée, sautelant et battant de l'aile, s'avançait sur l'Égypte, des cataractes au delta, occupant une largeur immense, fauchant l'herbe, réduisant les arbres à l'état de squelettes, dévorant les plantes jusqu'à la racine, et ne laissant derrière elle qu'une terre nue et battue comme une aire. À la prière de Pharaon, Mosché fit cesser le fléau. Un vent d'ouest, d'une violence extrême, emporta toutes les sauterelles dans la mer des algues. Mais ce cœur obstiné, plus dur que l'airain, le porphyre et le basalte, ne se rendit pas encore. Une grêle, fléau inconnu à l'Égypte, tomba du ciel, parmi des éclairs aveuglants et des tonnerres à rendre sourds, par grêlons énormes, hachant tout, brisant tout, rasant le blé comme l'eût fait une faucille. Puis, des ténèbres noires, opaques, effrayantes, où les lampes s'éteignaient comme dans les profondeurs des syringes privées d'air, étendirent leurs nuages lourds sur cette terre d'Égypte si blonde, si lumineuse, si dorée sous son ciel d'azur, dont la nuit est plus claire que le jour des autres climats. Le peuple, épouvanté, se croyant déjà enveloppé par l'ombre impénétrable du sépulcre, errait à tâtons ou s'asseyait le long des propylées, poussant des cris plaintifs et déchirant ses habits. Une nuit, nuit d'épouvante et d'horreur, un spectre vola sur toute l'Égypte, entrant dans chaque maison dont la porte n'était pas marquée de rouge, et tous les premiers-nés mâles moururent, le fils de Pharaon comme le fils du plus misérable parachite. Et le roi, malgré tous ces signes terribles, ne voulait pas céder. Il se tenait au fond de son palais, farouche, silencieux, regardant le corps de son fils étendu sur le lit funèbre à pied de chacal, et ne sentant pas les larmes dont Tahoser lui baignait les mains. Mosché se dressa sur le seuil de la chambre sans que personne l'eût introduit, car tous les serviteurs s'étaient enfuis de côté et d'autre, et il répéta sa demande avec une solennité imperturbable. « Allez, dit enfin Pharaon, sacrifiez à votre Dieu comme il vous conviendra. » Tahoser sauta au cou du roi et lui dit « Je t'aime maintenant, tu es un homme et non un dieu de granit. » Fin du chapitre 16, enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en septembre 2011. Chapitre 17 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17. Pharaon ne répondit pas à Tahoser. Il regardait toujours d'un œil sombre le cadavre de son fils premier-né. Son orgueil indompté se révoltait même en se soumettant. Dans son cœur, il ne croyait pas encore à l'Éternel, et il expliquait les plaies dont l'Égypte avait été frappée par le pouvoir magique de Mosché et d'Aharon, plus grand que celui de ses hiéroglyphites. L'idée de céder exaspérait cette âme violente et farouche. Mais, quand même il eût voulu retenir les Israélites, son peuple effrayé ne l'eût pas permis. Les Égyptiens ayant peur de mourir, tous eussent chassé ces étrangers, cause de leurs maux. Ils s'écartaient d'eux avec une terreur superstitieuse, et, lorsque le grand Hébreu passait, suivi d'Aharon, les plus braves s'enfuyaient, redoutant quelque nouveau prodige, et ils se disaient « La verge de son compagnon va-t-elle encore se changer en serpent et s'enlacer autour de nous ?»
Tahoser avait-elle donc oublié Poëri en jetant ses bras au cou de Pharaon? Nullement. Mais elle sentait sourdre dans cette âme obstinée des projets de vengeance et d'extermination. Elle craignait des massacres où se fussent trouvés enveloppés le jeune Hébreu et la douce Raël, une tuerie générale qui cette fois eût changé les eaux du Nil en véritable sang, et elle tâchait de détourner la colère du roi par ses caresses et ses douces paroles. Le cortège funèbre vint prendre le corps du jeune prince pour l'emporter au quartier des Memnonia, où il devait subir les préparations de l'embaumement qui dure 70 jours. Pharaon le vit partir d'un air morne, et il dit, comme agité d'un pressentiment mélancolique, « Voici que je n'ai plus de fils, ô Tahoser. Si je meurs, tu seras reine d'Égypte. »«
Pourquoi parles-tu de mort ? » dit la fille du prêtre. « Les années succéderont aux années sans laisser trace de leur passage sur ton corps robuste, et autour de toi les générations tomberont comme les feuilles autour d'un arbre qui reste debout. »
« Moi, l'invincible, n'ai-je pas été vaincu ?» répondit Pharaon. « À quoi sert que les bas-reliefs des temples et des palais me représentent armés du fouet et du sceptre, poussant mon char de guerre sur les cadavres, enlevant par leurs chevelures les nations soumises, si je suis obligé de céder aux sorcelleries de deux magiciens étrangers, si les dieux, auxquels j'ai élevé tant de temples immenses bâtis pour l'éternité, ne me défendent pas contre le dieu inconnu de cette race obscure ? Le prestige de ma puissance est à jamais détruit. Mes hiéroglyphites réduits au silence m'abandonnent. Mon peuple murmure. Je ne suis plus qu'un vain simulacre. J'ai voulu et je n'ai pas pu. Tu avais bien raison de le dire tout à l'heure, Tahoser. Me voilà descendu au niveau des hommes. Mais, puisque tu m'aimes maintenant, je tâcherai d'oublier et je t'épouserai quand seront terminées les cérémonies funèbres. Craignant de voir le pharaon revenir sur sa parole, les Hébreux se préparaient au départ, et bientôt leurs cohortes s'ébranlèrent, conduites par une colonne de fumée pendant le jour, de flammes pendant la nuit. Elles s'enfoncèrent dans les solitudes sablonneuses entre le Nil et la mer des algues, évitant les peuplades qui eussent pu s'opposer à leur passage. Les tribus, l'une après l'autre, défilèrent devant la statue de cuivre fabriquée par les magiciens, et qui a le pouvoir d'arrêter les esclaves en fuite. Mais cette fois le charme, infaillible depuis des siècles, n'opéra pas. L'Éternel l'avait rompu. L'immense multitude s'avançait lentement, couvrant l'espace avec ses troupeaux, ses bêtes de somme chargées des richesses empruntées aux Égyptiens, traînant l'énorme bagage d'un peuple qui se déplace tout d'un coup. L'œil humain ne pouvait atteindre ni la tête ni la queue de la colonne, se perdant aux deux horizons sous un brouillard de poussière. Si quelqu'un se fût assis sur le bord de la route pour attendre la fin du défilé, il aurait vu le soleil se lever et se coucher plus d'une fois. Il en passait toujours. Le sacrifice à l'Éternel n'était qu'un vain prétexte. Israël quittait à jamais la terre d'Égypte, et la momie d'Youssouf, dans son cercueil peint et doré, s'en allait sur les épaules des porteurs qui se relayaient. Aussi Pharaon entra dans une grande fureur, et il résolut de poursuivre les Hébreux qui s'enfuyaient. Il fit atteler 600 chars de guerre, convoqua ses commandants, serra autour de son corps sa large ceinture en peau de crocodile, remplit les deux carquois de son char de flèches et de javelines, arma son poignet du bracelet d'airain qui amortit le vibrement de la corde, et se mit en route, entraînant à sa suite tout un peuple de soldats. Furieux et terrible, il pressait ses chevaux à outrance, et derrière lui les 600 chars retentissaient avec des bruits d'airain, comme des tonnerres terrestres. Les fantassins hâtaient le pas et ne pouvaient suivre cette course impétueuse. Souvent, Pharaon était obligé de s'arrêter pour attendre le reste de son armée. Pendant ces stations, il frappait du poing le rebord du char, piétinait d'impatience et grinçait des dents. Il se penchait vers l'horizon, cherchant à deviner derrière le sable soulevé par le vent les tribus fuyardes des Hébreux et pensant avec rage que chaque heure augmentait l'intervalle qui les séparait. Si ses oëris ne l'eussent retenu, il eût poussé toujours droit devant lui
au risque de se trouver seule contre tout un peuple. Ce n'était plus la verte vallée d'Égypte que l'on traversait, mais des plaines mamelonnées de changeantes collines et striées d'ondes comme la face de la mer. La terre écorchée laissait voir ses eaux. Des rocs anfractueux et pétris en formes bizarres, comme si des animaux gigantesques les eussent foulés quand la terre était encore à l'état de limon, au jour où le monde émergeait du chaos, bossuaient çà et là l'étendue et rompaient de loin en loin par de brusques ressauts la ligne plate de l'horizon, fondue avec le ciel dans une zone de brume rousse. À d'énormes distances s'élevaient des palmiers épanouissant leur éventail poudreux près de quelques sources souvent taries, dont les chevaux altérés fouillaient la vase de leurs narines sanglantes. Mais Pharaon, insensible à la pluie de feu qui ruisselait du ciel chauffé à blanc, donnait aussitôt le signal du départ, et coursiers, fantassins, se remettaient en marche. Des carcasses de bœufs ou de bêtes de somme couchées sur le flanc, au-dessus desquelles tournaient des spirales de vautours, marquaient le passage des Hébreux et ne permettaient pas à la colère du roi de s'égarer. Une armée alerte, exercée à la marche, va plus vite qu'une migration de peuple traînant après elle femmes, enfants, vieillards, bagages et tentes. Aussi l'espace diminuait rapidement entre les troupes égyptiennes et les tribus israélites. Ce fut vers Pi-Hahiroth, près de la mer des algues, que les Égyptiens atteignirent les Hébreux. Les tribus étaient campées sur le rivage et, quand le peuple vit étinceler au soleil le char d'or de Pharaon, suivi de ses chars de guerre et de son armée, il poussa une immense clameur d'épouvante et se mit à maudire Mosché qui l'avait entraîné à sa perte. En effet, la situation était désespérée. Devant les Hébreux, le front de la bataille. Derrière, la mer profonde. Les femmes se roulaient à terre, déchiraient leurs habits, s'arrachant les cheveux, se meurtrissant le sein. « Que ne nous laissais-tu en Égypte? La servitude vaut encore mieux que la mort, et tu nous as emmenés au désert pour y périr. Avais-tu donc peur de nous voir manquer de sépulcre ?» Ainsi vociféraient les multitudes furieuses contre Mosché, toujours impassibles. Les plus courageux se jetaient sur leurs armes et se préparaient à la défense. Mais la confusion était horrible, et les chars de guerre, en se lançant à travers cette masse compacte, devaient y faire d'affreux ravages. Mosché étendit son bâton sur la mer après avoir invoqué l'Éternel. Et alors eut lieu un prodige que nul hiéroglyphite n'eût pu contrefaire. Il se leva un vent d'Orient d'une violence extraordinaire, qui creusa l'eau de la mer des algues comme le soc d'une charrue gigantesque, rejetant à droite et à gauche des montagnes salées couronnées de crêtes d'écume. Séparés par l'impétuosité de ce souffle irrésistible qui eût balayé les pyramides comme des grains de poussière, les eaux se dressaient en murailles liquides et laissaient libre entre elles un large chemin où l'on pouvait passer à pied sec. À travers leur transparence, comme derrière un verre épais, on voyait les monstres marins se tordre, épouvantés d'être surpris par le jour dans les mystères de l'abîme. Les tribus se précipitèrent par cette issue miraculeuse, torrents humains coulant à travers deux rives escarpées d'eau verte. L'innombrable fourmilière tachait de 2 millions de points noirs le fond livide du gouffre et imprimait ses pieds sur la vase que raye seul le ventre des Léviathans. Et le vent terrible soufflait toujours, passant par-dessus la tête des Hébreux, qui l'eût couché comme des épis, et retenant par sa pression les vagues amoncelées et rugissantes. C'était la respiration de l'Éternel qui séparait en deux la mer. Effrayés de ce miracle, les Égyptiens hésitaient à poursuivre les Hébreux. Mais Pharaon, avec son courage altier que rien ne pouvait abattre, poussa ses chevaux qui se cabraient et se renversaient sur le timon, les fouaillant à tour de bras de son fouet à double lanière, les yeux pleins de sang, l'écume aux lèvres, et rugissant comme un lion dont la proie s'échappe. Il les détermina enfin à entrer dans cette voie si étrangement ouverte. Les 600 chars suivirent. Les derniers Israélites, parmi lesquels se trouvaient Poéri, Raël et Tamar, se crurent perdus,
voyant l'ennemi prendre le même chemin qu'eux. Mais, lorsque les Égyptiens furent bien engagés, Mosché fit un signe. Les roues des chars se détachèrent et ce fut une horrible confusion de chevaux, de guerriers, se heurtant et s'entrechoquant. Puis les montagnes d'eau miraculeusement suspendues s'écroulèrent et la mer se referma, roulant dans des tourbillons d'écume hommes, bêtes, chars, comme des pailles saisies par un remous au courant d'un fleuve. Seul, Pharaon, debout dans la conque de son char surnageant, lançait, ivre d'orgueil et de fureur, les dernières flèches de son carquois aux Hébreux arrivant sur l'autre rive. Les flèches épuisées, il prit sa javeline et déjà plus qu'à moitié englouti, n'ayant plus que le bras hors de l'eau, il la darda, très impuissant, contre le dieu inconnu qu'il bravait encore du fond de l'abîme. Une lame énorme, se roulant deux ou trois fois sur le bord de la mer, fit couler bas les derniers débris. De la gloire et de l'armée de Pharaon, il ne restait plus rien. Et sur le rivage opposé, Myriam, la sœur d'Aaron, exultait et chantait en jouant du tambourin, et toutes les femmes d'Israël marquaient le rythme sur la peau d'onagre. 2 millions de voix entonnaient l'hymne de délivrance. Fin du chapitre 17. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en septembre 2011. Chapitre 18 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18. Tahoser attendit en vain Pharaon et régna sur l'Égypte. Puis elle mourut au bout de peu de temps. On la déposa dans la tombe magnifique préparée pour le roi, dont on ne put retrouver le corps, et son histoire, écrite sur papyrus avec des têtes de chapitre en caractères rouges, par Kakevou, grammate de la double chambre de lumière et gardien des livres, fut placée à côté d'elle sous le lacis des bandelettes. Était-ce Pharaon ou Poëri qu'elle regrettait? Le grammate Kakevou ne le dit pas, et le docteur Rumphius, qui a traduit les hiéroglyphes du grammate égyptien, n'a pas osé prendre sur lui de décider la question. Quant à Lord Evandale, il n'a jamais voulu se marier, quoiqu'il soit le dernier de sa race. Les jeunes Mrs. ne s'expliquent pas sa froideur à l'endroit du beau sexe. Mais, en conscience, peuvent-elles imaginer que Lord Evandale est rétrospectivement amoureux de Tahoser, fille du grand prêtre Pétamounoff, morte il y a 3 500 ans? Il y a pourtant des folies anglaises moins motivées que celles-là. Fin du chapitre 18. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en septembre 2011. Fin du roman de la momie par Théophile Gautier.
This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.